Donc voilà, je suis revenu là. J'espère que ça, je sais pas si ça va fonctionner mieux. On va tenter tout au moins, sinon on repassera par le relais audio, hein, si je vois que ça, ça recommence à couper. Alors donc notre fameuse loi d'Ohm, en fait, ça permet de déterminer les relations que l'on a entre ces quatre grandeurs de l'électricité, qui sont l'intensité. Donc l'intensité, c'est le débit. En fait, quand on parle d'intensité, on parle de passage de courant. C'est un certain nombre d'électrons qui passent dans un fil électrique. Enfin, fil électrique ou autre système, il peut y avoir autre qu'un fil électrique, hein. Dans n'importe quoi, c'est un passage de courant. Donc c'est un passage d'électrons. C'est mesuré en ampères, donc l'unité. Bah, apparemment, il n'y a plus de coupure. Il n'y a plus de coupure pour le moment. Donc c'est apparemment c'est quand il y a trop de paquets. Ah, ça recommence. Ça recommence. Bon, on va se remettre sur le relais audio.
Ah oui. Voilà, je sais pas sur l'autre, relais si la voix est meilleure. Ouais, c'est vert. Vous allez me dire si. Ah bah voilà, donc ça m'a l'air d'être bon. Donc il y a un niveau. Ok, bon, bah alors c'est parti sur le relais 1. Heureusement qu'on en a deux de secours. La redondance. La redondance est toujours bon. Donc ma résistance, ça désigne à la fois donc le composant et le phénomène. Donc ne soyez pas étonnés quand on parle de résistance, c'est qu'en fait c'est un composant dont l'objet est de fabriquer une résistance d'une certaine valeur connue. C'est marqué dessus. Donc alors c'est marqué dessus, mais c'est plus ou moins c'est plus ou moins vrai, c'est-à-dire qu'il y a une tolérance. On verra après. Mais bon, quand on dit que c'est une résistance de 2200 ohms, par exemple, bon, ça peut être 2150. Hein. Mais l'idée, c'est que c'est une résistance qui fait 2150 ohms. Enfin, donc 2200 ohms si c'est marqué dessus. Donc elle va avoir, vis-à-vis de la tension et de l'intensité, cette réaction. Alors, sur les résistances, il y a très longtemps, les résistances étaient dessinées comme ça. Donc on dessinait les résistances comme ça. Ça, c'est dans les très vieux schémas. Maintenant, la résistance, c'est un carré. Un rectangle plus exactement. C'est un rectangle et en règle générale, j'ai bien dit en règle générale, la valeur est à l'intérieur. Ou alors c'est vraiment juste à côté. Oui, ça, on pouvait confondre et puis surtout c'est plus facile à dessiner comme ça. Parce que de ce fait, on peut mettre la valeur à l'intérieur, alors que là il fallait la mettre à l'extérieur. Donc voilà. Comment sont dessinées les résistances. Et la valeur de la résistance, on peut la mettre à l'intérieur. Donc, par exemple, on met 2200. Alors, une valeur de résistance, ça se mesure en ohm. Là, comme c'est une résistance, il n'y a pas besoin d'indiquer ohm. On peut le faire, mais il n'y a pas de... On n'est pas obligé, puisque... Autre manière de Donc on a le 2000. On mettra ça. 2,1 kilo-ohm. Pour dire kilo-ohm. Encore plus tordu. 2, K. Dans ce cas-là, c'est le K qui remplace la virgule. Hein? Donc ça, c'est tout. Alors celle-là, cette représentation, elle est quand même assez rare. Hein? Mais le 2,2K, c'est très courant. 2200 ohms, quand c'est pour des valeurs comme ça, on préfère utiliser 2200 tout court. Et quand vous tournez en méga-ohms, parce que sinon, les zéros, la résistance, elle n'est pas si grande. Hein? Donc voilà les manières d'écrire la valeur d'une résistance dans la résistance. Alors, cette résistance, donc, on peut avoir une tension, on peut avoir une tension à ses bornes. La tension, c'est quoi? C'est la pression des électrons de chaque côté. La différence de pression d'électrons de chaque côté de la résistance. Ça veut dire, quand on a une tension, ça veut dire qu'à un endroit, les électrons sont plus comprimés que de l'autre côté. C'est ça que ça veut dire. Elle, sur les, une différence, ça veut dire que c'est entre deux points. C'est un écart, donc écart par rapport à quelque chose, toujours pareil. Donc comme c'est par rapport à deux points, en fait, on dessine une je mesure, voilà, en fait, entre l'entrée, entre les deux entrées de la résistance, entre chaque bout de la résistance. Lorsque je veux mesurer autre chose, je peux avoir aussi c'est-à-dire qu'on a une flèche, quand on est en circuit électronique, les masses, typiquement la masse, c'est la ferraille. Alors, est-ce qu'on voit est-ce que ça va rafraîchir? Je ne sais pas. Ça met un certain temps à rafraîchir. Voilà. Je vais avoir une crampe bientôt. Ça met un certain temps. Je ne sais pas si ça a pris. Non. Donc là, les petites résistances, c'est des composants qui sont ici. Alors attends, qu'est-ce qu'il y en a là? Voilà, ici, là, sous mon doigt. D'accord? Tout le monde a vu? Tout le monde sait ce que c'est qu'une résistance? Là, il y en a aussi là derrière. Là, voilà, il y en a qui en crament tous les jours, il y en a une belle là, une grosse là. Ouais, puis c'est des trucs qui fument. Il y en a qui les font fumer. Alors, les questions. Alors, c'est pour traverser la résistance avec une tension. Alors, les résistances, en fait, elles sont créées pour, on va voir après la relation entre tension et intensité. Les résistances, elles sont faites essentiellement pour limiter les intensités ou alors pour faire des ponts de résistance. On va voir que c'est plus tard dans le cours, pour générer une tension qui n'existe pas dans le circuit. Hein, donc ça s'appelle un pont de résistance. On verra ça au fur et à mesure. Hein. Pour l'instant, on voit les principales notions à connaître. Les principales notions à connaître. Donc ma tension, là, elle se mesure donc de chaque... C'est la différence de tension qu'il y a entre l'entrée et la sortie. Lorsque j'ai ma flèche ici, ça veut dire que je mesure ici, enfin, tout au moins je mets, quand je mesure avec mon voltmètre, je mets le point comme parce qu'il y a une masse qui s'appelle comme, le commun, que l'on met donc du côté où il n'y a pas la flèche, et l'autre broche qui est généralement la prise où on mesure, je la mets où je mesure. Et donc là, mon voltmètre va m'indiquer la tension que j'ai entre là et là. Voilà. Et si je mesure une tension par rapport à la masse, eh bien le commun, je le mets sur la masse. Avec une pince crocodile, c'est encore mieux. Alors, autre chose. Ici, ça s'appelle A et ici B. La tension que je vais mesurer, donc le A est du côté où il n'y a pas la flèche et le B est du côté où il y a la flèche. Cette valeur. Ah oui, bah ça, attendez. Pour l'instant, on mélange pas les composants simples. C'est déjà pas mal. Ah. Donc, je mesure. Voilà, donc là, sur la webcam, on voit bien UAB. Donc là, j'ai bien ma valeur, ici, ma tension. Cette valeur aussi de tension, ça s'appelle aussi, un terme assez barbare, ça s'appelle différence de potentiel. Et différence de potentiel, quand on essaye de faire un peu d'analyse sémantique, enfin faire de la sémantique, on s'aperçoit que la différence, donc c'est bien une différence entre deux endroits, et le potentiel, c'est une tension. Donc différence de potentiel, ça veut dire différence de tension. Hein? Voilà. Donc là, mesurer une différence de potentiel, c'est mesurer une tension aux bornes de quelque chose. C'est-à-dire qu'on mesure une tension dans le circuit par rapport à la masse, où on mesure une différence de potentiel sur un composant. Autre notion aussi de tension, c'est la force électromotrice, qui est encore autre chose. La force électromotrice, c'est la tension délivrée par une pile, ou un accumulateur, un générateur en fait. Donc on n'appellera pas ça une différence de potentiel, puisque différence de potentiel, ça veut dire que ça consomme de l'énergie. Quand on crée de l'énergie, on va appeler ça de la force électromotrice. En plus, encore, quand on regarde, c'est une force, puisque ça génère, et c'est électromotrice, c'est-à-dire que c'est électrique. Et ça peut, ça crée de l'énergie. Force électromotrice qu'on va appeler FEM. FEM, on va voir ça souvent ça quand on Eh bien, c'est le courant qui passe. Et le courant passe dans les fils, et évidemment dans la résistance. Et ce courant, il se mesure donc sur le fil. Ça veut dire que pour mesurer un courant, il faut couper le fil et insérer l'ampèremètre sur le fil. C'est-à-dire que comme ça qu'on peut mesurer le courant. C'est typiquement le compteur. Le compteur de flotte. Le compteur d'eau, vous le mettez dans votre circuit d'eau. Vous comptez l'eau. Et là, c'est l'ampèremètre va fonctionner comme un compteur d'eau. Il va compter le nombre d'électrons qui passent. Enfin, bon, c'est pas. Il compte pas, il n'y a pas un bonhomme qui compte, mais il annonce. Tout au moins, il sent qu'il y a un certain nombre d'électrons. Après, très important, un ampère, ça représente l'électron qui passe. Quand je dis gros paquet, c'est délirant. On verra après. Hein, donc, il faut voir aussi que l'électron, c'est tout petit. Hein. Donc, bon, c'est normal. c'est pas grand chose un électron. Mais il y a ça donne une idée de la grandeur de. Ah oui. Oui, oui, mais bon, l'électrovolt, parce que lorsque le volt a été défini, on ne connaissait pas l'électron. Donc on n'a pas pu définir la tension par rapport à la tension d'un électron, sinon je pense que ça aurait fait. Mais comme on a découvert, enfin tout au moins défini le volt avant de connaître l'existence des électrons, bah on, par la suite, on s'est recalé sur l'électrovolt, qui n'est pas une division du volt. Bah oui. Ah oui, il y a quasiment plus de. Sur les pistes de circuits intégrés maintenant, ça devient très petit, très petit. Alors, revenons à mon intensité. Mon intensité, donc, ça se mesure sur une flèche sur le circuit. Comme ici. Alors d'ailleurs, sur je l'ai mis de l'autre côté, mais c'est pas grave. Donc, et ici, je vais appeler ça IB, c'est-à-dire l'intensité qui passe au point B. Parce qu'évidemment, ça ne passe que sur un seul point, là. Alors que la tension, on parlait bien de deux points. On parlait de différence. Là, on regarde ce qui se passe à un endroit bien précis. Et donc, on nomme cet endroit, on va l'appeler IB. Et la flèche, du coup, elle est sur le circuit. Et vous remarquez le sens de la flèche. Parce que, évidemment, comme j'ai plus de tension ici, donc j'ai plus de pression d'électrons ici, donc les électrons, il y a moins de pression. Ça semble tellement évident que bon, ça... Donc, moralité, tous les électrons qu'il y avait dans le point B, ils vont essayer de passer par la résistance qui résiste. Ne veut pas, ces électrons, ils arrivent au point A. Moralité, le sens du courant va de B vers A. D'accord? Ce qui veut dire que la flèche là, alors si ici on est le plus, ça veut dire que, c'est, alors, je parle d'électrons, en fait, de définir, encore une fois, quand on a défini la tension, on ne connaissait pas la valeur des électrons. Pas de chance, le tifou, ils ont une valeur négative. Donc, alors, on a avéré que lorsqu'on a, enfin, la recherche a avancé, les électrons, ils avaient une valeur inverse. Pas de chance. Donc, tout ce que je dis, en fait, ça ne rapporte pas aux électrons, ça se rapporte au manque d'électrons. Exactement au trou. Mais bon, on oublie. De toute façon, en radio, on n'utilise pas les électrons. Enfin, tout le monde, si on les utilise, ce n'est pas important. Le raisonnement reste le même. Il est inversé, mais c'est tout. Donc, mon courant, pour ne pas parler des électrons, passe du plus vers le moins. Et là, c'est normal, ça va de là où il y en a. Plus vers là où il y en a le moins qui empêche, qui freine le courant. Alors ça empêche plus ou moins. Plus la résistance est grande, plus le courant est gêné de passer. Et plus elle est faible, inversement, plus le courant y passe sans problème.
D'ailleurs, on démontre que pour les gaz anneaux à aiguille, sont toujours dans ce remède que l'on peut monter avec des gaz anneaux, soit en voltmètre, soit en wattmètre. Par contre, pour les
Ouais. C'est plutôt des tensions qu'on mesure. Bah oui.
Il en déduit la consommation.
Il en déduit la consommation. Et donc, on se fait avoir quand il ne délivre pas du 220. Par contre, on gagne quand il délivre plus que 220.
Par contre, il est plus facile de mesurer la consommation de votre patronage avec une moteur EDF qu'avec un voltmètre à l'intérieur. C'est 130
ampères, ça sert à rien. Ouais. Alors, pour terminer dans mes bases d'électricité, j'ai une quatrième notion importante. Alors, pas si importante que ça, parce qu'on s'aperçoit qu'en radio, on l'utilise pas beaucoup, qui est la puissance. On l'utilise beaucoup quand on fait des montages, parce qu'on a besoin de connaître la puissance de dissipation des composants, mais quand on fait de la théorie, c'est beaucoup.
Ou d'un réseau électrique, c'est une résistance de quelques ohms qui est combinée et conçue pour dissiper le
temps. Ah oui, ça c'est du fil d'ailleurs.
Oui.
Ça c'est pas, c'est du fil. C'est pas une résistance.
Pour la régler.
Ouais. Et puis pour éviter aussi quand ça chauffe trop de.
Oui.
Ça coupe.
Oui. Il y a la particularité de se réguler.
C'est-à-dire que ça chauffe plus,
Parce que les temps c'est du tout ou rien. Hein.
Ouais, ça marche ou ça.
Ton courant passe,
ou ça passe pas.
Où ta résistance est rouge, le consentant réduit.
Ouais, ouais.
Au moins en résistance. Donc régule automatiquement.
Alors, la puissance. Donc le calcul. Qu'est-ce que va faire la frottement? C'est bête et con, classique, hein. Dès qu'il y a du frottement, automatiquement ça chauffe. Ça, c'est. Il n'y a pas. En électronique, il y a. D'autres électrons. Et au frottement des électrons, en fait, ils bougent tout le temps. Tout le temps. Alors, mais lorsqu'il y a les uns dans un sens, on ne perçoit pas. Voilà, c'est ce qu'on appelle mouvement brownien. C'est-à-dire que ça va dans tous les sens, et comme ça va dans tous les sens, et ben, les mouvements s'annulent l'un l'autre. Et comme il y a tellement d'électrons qui se baladent, il y a toujours un électron qui va en sens inverse de l'autre. Et de ce fait, et ben, on a l'impression qu'il n'y a pas de courant. Lorsqu'il n'y a pas de tension. Le souffle. Quand vous entendez du souffle, et la seule manière pour qu'il y ait moins d'agitement, c'est de réduire la température. C'est con. Il faut savoir que les électrons, quand ils sont au zéro absolu, donc à moins 273 degrés, ils bougent plus. Mais le problème, c'est que il n'y a plus de matière non plus, ça ne fait rien.
Je crois qu'on est arrivé à 2,13 de B, tout à millième.
Ah, non, on arrive au milli Kelvin.
Oui.
Au milli, donc un millième de degré au-dessus du zéro absolu.
Oui.
On arrive... alors, c'est des trucs... déjà, ça ne se passe pas sur Terre, ça se passe sur les satellites. Pour gagner quelques centaines de degrés, on fait des expériences en dehors de l'atmosphère, c'est-à-dire sur des satellites, et pendant qu'ils passent derrière la Terre. C'est-à-dire, derrière la Terre. Pendant qu'ils sont à l'ombre. Donc, ça sert essentiellement voilà bon un peu loin mais bon ça permet de bien de des électrons. Les électrons s'agitent, c'est bien ça. Ah ben alors, nous, ah ben comment on fait pour refroidir? On met des radiateurs. La seule manière de refroidir, parce que ces petites résistances, ces petits composants, c'est des petits petits ça. Donc ça supporte une certaine chaleur. Bah ça tout dépend de la valeur. Toutes ces petites là, c'est un quart de watt. Ça supporte pas. Au-delà d'un quart de watt, le truc il crame. Alors non seulement le composant est crame, mais généralement il y a la piste de circuit imprimé derrière qui dégage assez vite. Parce que c'est pareil, hein, la soudure, elles font l'espèce de piste de circuit imprimé s'est collée en fait sur la bactélite. La colle, elle est dissoute, hop, cramée, enfin bon, il n'y a plus rien. Et qu'est-ce que je veux dire ça, il y en a une de un peu plus grosse là. Je dois avoir des résistances. Les plus grosses résistances de ce. Enfin, classique, c'est 2 watts. On monte jusqu'à 2 watts. Au-delà, si on veut dissiper plus de puissance, on utilise des radios. On utilise des radiateurs. Non, c'est souvent, nous, hein. Parce que en règle générale, on se débrouille pour l'heure. Plus il y a besoin d'une alimentation et on consomme du courant. Rien, ça chauffe, mais c'est pas du chauffage électrique, tu vois. On essaye, d'ailleurs la plupart, il n'y a pas que les radioamateurs, à part ceux qui font du chauffage, sinon la vocation c'est pas de chauffer. Donc on essaye de trouver des solutions pour que ça chauffe le moins possible.
Il y a le grippin, qui bouge d'ailleurs, et puis on va dire que ça, c'est déjà pas une
courant.
C'est sur la base de résistance et de régulation.
Ah ouais, mais ah oui, mais ça c'est, on verra après ce que c'est. On verra quand on fera la résistivité. Alors, donc la puissance, on a vu. Donc alors, si on veut se la pression se mesure par rapport à quelque chose. Hein, quand on mesure la pression d'eau, c'est soit par rapport à l'atmosphère, hein, puisqu'il y a une certaine pression naturelle, ou alors c'est entre deux à l'intérieur, hein, puisqu'on parle de bar, donc c'est par rapport à la pression naturelle de l'eau. Hein. Et haute pour l'intensité, c'est côté débit. Donc c'est le compteur d'eau. Et puis entre les deux, ben, on s'aperçoit que plus on a de pression d'eau, plus on peut utiliser un petit tuyau. Donc si on n'a pas beaucoup de pression, vous utilisez un gros tuyau. Ça, c'est un truc de chauffagiste. D'ailleurs, les anciennes installations, quand il n'y avait pas de circulateur, hein, pour le chauffage central, on utilisait des gros tuyaux. C'est-à-dire l'eau chaude, moteur. C'est ce qu'on appelle la convection naturelle. De chauffagiste, donc voilà. Donc ça, c'est mes quatre grandeurs qui sont donc la résistance, la tension, l'intensité, la puissance. Ces quatre grandeurs sont liées. Alors déjà, il y a un premier lien qui est la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, elle dit que la tension, c'est égal à la résistance multipliée par l'intensité. C'est-à-dire que M. Volt a commencé par déterminer la tension. Après, il y a M. Ohm qui est passé par là. Il a défini la résistance. C'est M. Ampère qui a relié les deux. Et il a relié les deux en disant que l'intensité... Il a relié les deux par cette fameuse loi d'Ohm. Alors, la loi d'Ohm, elle est très importante. Et elle dit que U égale R multiplié par I. C'est la résistance qu'on donne en ohm. Ça, c'est le cas de figure possible et imaginable. D'accord. Une résistance de 22 mais une résistance voilà. Pour trouver une loi de Joule, une autre loi de Joule, elle, la loi de Joule est égale à la tension multipliée par l'intensité. C'est-à-dire que, en clair, plus il y a d'intensité, c'est logique. Donc là, ici, ma puissance Bon, donc F opéré par Epsi GPX. Voilà, je reviens. J'avais fait un petit blanc sur 144 sur la webcam, mais ça y est, elle commence à... Elle s'est rafraîchie, donc tout va bien. Donc, la loi d'Ohm et la loi de Joule sont affichées, là, ce sont les relations qu'on a entre la résistance, la tension, l'intensité et la puissance. D'accord. Donc ça c'est le béaba, et c'est à connaître. Alors, ces lois-là, elles sont pas faciles comme ça à utiliser, parce que souvent, on va avoir l'intensité, la tension, mais pas la résistance. Où on peut avoir l'attention, la résistance, et je veux la puissance. Là, ça se complique. Alors, comme ça va être le bordel, eh bien, on a trouvé un système qui permet de s'y retrouver assez facilement, qui permet, pour tout au moins ceux qui ont un petit peu de difficulté avec l'algèbre. Voilà. Alors là, j'en vois qui on commence à avoir le sourire. J'efface ça, donc présenté sous une autre manière. La loi d'Ohm, ça. Voilà. Donc ça, c'est la loi d'Ohm, U égale RI. Alors, la webcam, elle s'est pas rafraîchie au bon moment. Et il y a ma main sur le I. Donc, mais ça vous donne déjà une idée. Donc, voilà. U égale RI. Alors, c'est quoi? Ça veut dire que là, avec ce triangle-là, lorsque j'ai ma tension et ma résistance, comment calculer mon intensité? Je cache l'intensité. Voilà, je cache l'intensité. Et là, j'ai tension divisée par résistance. Puisque c'est en dessous, donc c'est divisé. Par contre, si j'ai ma résistance, mon intensité, et que je veux calculer ma tension, maintenant, multiplication. C'est que on cache en fait la partie P égale lui, donc on en a. C'est-à-dire que voilà. Alors, vous me direz, il y en a encore, si j'ai la résistance, par exemple, et l'intensité, comment je vais calculer la puissance? Parce que tout ça, c'est lié, évidemment. Hein. Alors, dans ce cas-là, on sait que, premièrement, U égale RI. Et d'autre part, P égale UI. Le U qui est là, je le remplace par sa valeur. Puisque U égale RI, on dit. Donc P égale R multiplié par I, c'est-à-dire ça, remultiplié par I. Deux fois multiplié par I. Donc on dit que P égale R I au carré. D'accord ? Un au carré, c'est multiplié par lui-même. Donc ça me fait une troisième formule. Alors ça me fait P I carré. Plus exactement, là je vais mettre le i carré de côté. c'est plus lisible. Voilà. D'accord ? Donc ça, c'est une troisième formule. La quatrième formule, quatrième et dernière formule, elle est plus tordue, celle-là. Alors, je sais que I est égal à U sur R. Je cache mon I et je vois que ça fait U divisé par la connexion, c'est, ça s'est déconnecté. Ouais, ça s'était déconnecté. Ça s'était déconnecté. Alors je sais pas,
Je sais pas depuis quand.
Ah oui, je passe toujours en audio, moi. D'accord. D'accord. Bah, je voyais plus rien, aucun message, donc je me. Bon, donc on continue. Si ça y est, ça repasse. Ça s'était coupé. Bah, alors là, maintenant, c'est des exemples concrets, donc on va faire deux exemples, exemple 1 et exemple 2. Alors, c'est sur la page 38.
D'accord, je vais te passer un bouquin, quand même.
Alors, donc sur la page 38, sur l'exemple 1, alors, c'est du... Il n'y a pas de schéma, donc c'est juste une question. Alors, il faut couper le micro. Ok. Mute microphone. Voilà, c'est fait. Donc, la première question, il n'y a pas de schéma, en fait, c'est juste une question, ce que j'appelle de littérature. C'est-à-dire qu'on donne des... C'est une phrase que vous allez avoir, et donc il faut résoudre cette question juste par le calcul, il n'y a pas de schéma. Donc la question c'est, soit une résistance de 1500 ohms parcourue par un courant de 0,1 ampère, quelle est la tension à ces bornes, quelle est la puissance dissipée. Donc il y a deux questions là. Alors je vous rassure, à l'examen, c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux à la fois. On ne peut pas poser deux questions, ou tout au moins... Ça se complique, je ne vois pas trop comment on peut poser ce genre de questions. Donc la question là, c'est, on va commencer déjà par calculer la tension, puis après la puissance, quoi qu'on pourrait tout à fait le faire dans l'autre sens, ça ne gêne pas. Alors, donc là, j'ai une résistance, j'ai une intensité, et là on demande une tension. Alors la première chose à faire, c'est déjà de déterminer quel triangle je vais utiliser. Parce que c'est pas le tout d'avoir quatre triangles, mais dans les quatre, en fait, il y en a toujours que trois, enfin il y en a toujours un seul qui est utilisé. Il faut connaître les quatre, mais il n'y en a qu'un seul utilisé. Salut. Donc, là, ce que l'on calcule, c'est la tension. Donc je cache le U. Et comme je cache le U, eh bien, ça me fait R multiplié par I. R, c'est 1500, I, c'est 0,1 ampère. Donc, 1500 multiplié par 0,1, ça me donne 150. Normalement, il n'y a pas besoin de calculette. Hein. Et en plus, l'exercice est fait. Mais même s'il n'était pas fait, normalement, 1500 multiplié... par 0,1, ça doit se faire 30. Ah bah oui. C'est la puissance. Puissance, alors je cache mon P, puisque c'est là que c'est sur le deuxième triangle que ça qui va être intéressé. Donc. Et en cas de... Donc U, je viens de le calculer, c'est 150 volts, multiplié par 0,1 ampère, ça me fait 15 watts. D'accord ? Alors, vous me direz, oui, mais il a fallu calculer d'abord la... Et si j'avais... Eh bien, il faut trouver la formule où j'ai le triangle, où j'ai la résistance, l'intensité et la puissance. La puissance, c'est mon troisième triangle. Je cache mon... Et c'est encore 15 watts. Les gens très tordus. J'ai toujours mon tension. Donc, tension, résistance, puissance, j'utilise celui-là. Puissance, je cache mon P. Ça me donne donc U2 sur R. U2. U au carré, c'était 150 volts. Donc ça me fait 150 multiplié par 150 divisé par 1500. Bah, ça fait encore 15. Bon, alors là, il faut être tordu quand même. Et en plus, il faut sortir la calculette. Ça peut se faire mentalement, mais il faut être entraîné quand même. Donc, et évidemment, coup de chance extraordinaire, ça donne encore 15 watts. La vie est quand même bien faite. Bah oui. Non, mais comme... Bah oui. Bah oui. Ouais. Alors, exemple 2. L'exemple 2, là, c'est un schéma. Donc là, en fait, il n'y a pas de question, il faut essayer de comprendre ce que l'on veut. Alors visiblement, on demande deux choses, puisqu'il y a marqué P égale et R égale. Ça veut dire qu'on demande la résistance et la puissance. Donc, on va commencer au hasard par la puissance. Alors, là, j'ai une tension, une intensité. Tension intensité. Par quelque chose de plus petit que 1, ça augmente.
Ça augmente.
C'est l'inverse. Hein. Faut l'oublier. Ensuite. Ah bah encore le. Ah, un téléphone. Autre solution, mais ça bon, on peut continuer comme ça, c'est la résistance. La résistance en passant par la puissance et l'intensité, c'est-à-dire que sans avoir calculé au préalable c'est parce que j'ai calculé la puissance que je peux m'amuser à calculer maintenant cette formule. La puissance, j'avais dit que c'était 0,1 watts, et donc il faut que j'utilise celle-là. R est égal à P sur I2, donc P c'est 0,1, divisé par I au carré, donc c'est divisé par 0,05, divisé par 0,05. Ou divisé par, alors ça c'est assez tordu ça. Quand on utilise la calculette, soit on divise deux fois, soit on divise par, j'ouvre ma parenthèse, I multiplié par I, et je referme ma parenthèse. Faire attention à ça, parce que n'oubliez pas, quand vous utilisez les calculettes, si vous utilisez cette formule-là, P égale RI2, de faire P divisé par, ma parenthèse, on peut mettre, si vous mettez i au carré, c'est-à-dire que si vous prenez la fonction i au carré, ça va fonctionner parce qu'il va commencer par calculer ça. Mais il faut faire très attention à la manière dont c'est... Parce qu'avec les calculettes, Donc là, il faut faire des... Oui, faut s'entraîner, hein. C'est prévu la semaine prochaine, je vous rassure. Ouais, bah j'en ai deux là. J'en ai deux des calculettes. Bah sinon, il faut quitter la calculette d'un gosse, hein. C'est bon, c'est un gosse collège. Oui. TI-30. La TI-30 collège. Ça marche très bien. Ah bah oui, non, mais à tout prix. Alors, en fait, on va apercevoir que le coulomb, enfin l'intensité, c'est un certain nombre d'électrons qui passent. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ce nombre d'électrons, c'est une certaine quantité. Alors exactement, c'est 6,25 10 puissance 18. Donc c'est 6 avec 18 zéros derrière. 6 milliards de milliards. On n'en sortirait pas, hein. On s'en sortirait pas. Hein. Donc, quand on parle d'un ampère, c'est... quand on parle d'un ampère, c'est toujours une certaine quantité d'électricité par seconde. Parce que, déjà, tout ce qui est unité de temps... que ce soit en radio ou n'importe quoi. Ah, ça commence à chauffer. Le câble. On va réduire... c'est déjà réduit. Ouais, on va mettre ça dans la régulation. Donc, mon coulomb, c'est une certaine quantité d'électrons, un certain nombre d'électrons qui passent. Et quand on parle d'ampères, c'est un coulomb par seconde. c'est cette quantité d'électricité, cette quantité de, d'électricité, oui, d'électrons qui passe. Donc ce sont physiquement, ce sont des électrons qui sont passés. Et quand on parle d'un ampère, c'est un. Par seconde. Donc Coulomb, on va le retrouver dans les condensateurs, dans les poubelles. Dès que, quand il va y avoir une réserve d'électricité, on va parler de Coulomb. Ah oui. Mais l'ampèreur n'est pas. La presse en physique, ça se mesure en mètres secondes. Mais si tu veux, si on lit sur un compteur des mètres secondes, ça donne pas d'idée de. De la vitesse du véhicule. La quantité de chaleur, enfin une quantité d'énergie, c'est ça, c'est le joule. C'est pour ça tout à l'heure on parlait de la loi de joule et non pas de la loi de watt. La loi de joule parce que le joule c'est une unité de chaleur. Alors, il y a deux unités de chaleur, deux sont liées évidemment. Oui, c'est la quantité d'un litre d'eau. C'est une quantité d'énergie qui est liée à mon fameux Coulomb. Puisque j'ai ma loi d'eau derrière qui va jouer. Donc partout, les coulombs, enfin les ampères par des coulombs et les watts par des joules. Sachant que derrière, quand on veut passer de joules à watts ou de coulombs à ampères, il y a cette notion de temps. Puisque le joule, c'est une quantité d'énergie, mais instantanée, c'est l'énergie. C'est-à-dire que quand on parle d'augmenter la température d'un litre d'eau, on ne dit pas en combien de temps on l'augmente. On sait que ça va augmenter de tant de degrés. Mais on ne sait pas en combien de temps ça va le faire. Et idéalement, c'est-à-dire que évidemment, sans autre détermination que le fait de chauffer l'eau. Hein. Par le... On n'aura pas des courants d'air et autres. Ça c'est là. Donc voilà. Oui, alors ce qu'il faut aussi bien différencier, c'est l'énergie disponible. Alors l'énergie, parce que, alors, très tordu ça. Le coulomb, il se note, donc ça, le coulomb, il se note C. Hein, c'est comme coulomb. Pour mesurer les coulombs. Et généralement, on le note avec la lettre Q, c'est-à-dire que l'intensité, c'est U, en ampères, et le coulomb, c'est Q, la quantité d'électricité. Q comme quantité. D'accord ? Par contre, tout ce qui est puissance, en fait, il y a encore deux puissances. Il y a la puissance qui est consommée, et la puissance qui est fournie. Monsieur EDF, il vous fournit des watts. Mais il les consomme pas. C'est vous qui les consommez. Donc, on ne va pas... De puissance délivrée, c'est le E, la fameuse E égale MC2. C'est l'énergie qui est mise à la disposition.
Bien sûr, si la loi de Compton. Il fait 2700 milliampères-heure.
Ouais.
Sur un voltage, là-bas.
Et l'énergie consommée, elle, par contre, la lettre, ça va être W. Pour dire que c'est de l'énergie que je consomme. Hein? Et donc ça, cette énergie, c'est en fait, alors W c'est comme travail, parce qu'en aussi en physique on appelle ça le travail. Ah ben oui, parce que le W, c'est pour ça, le W, le fait qui est tordu, c'est que le W, c'est work en anglais. Donc,
Je vous sens que plus de soufflation, comme il n'y a pas de charbon, parce que la partie de ce point-là, on avait droit à 20 TFW par heure. Hein. Alors, c'est pas grand-chose. Hein.
Ouais. Quand on remet tout ça au dôme, en fait, on transforme ici l'intensité, on peut mettre ça à la place de l'intensité, ici, on met la quantité d'énergie, donc Q. Je supprime la notion de temps. Hein. Donc c'est une opération qui peut se faire c'est le travail, parce que on a un travail à faire, par exemple transporter une tonne de sable. Soit on utilise ouais, où on utilise une pelleteuse. Le travail est le même. Transporter une tonne de sable. La seule différence, c'est le temps. Et donc, c'est la puissance que l'on a mis en œuvre pour faire le travail. C'est donc une pelleteuse est plus puissante que moi avec ma petite brouette. C'est là où il faut bien saisir cette notion-là. Alors, nous, on va pas trop s'en servir, hein, je vous rassure. Je ne veux pas paniquer tout le monde, mais ce sont des notions qu'on va retrouver, c'est cette notion d'énergie, d'électricité, à ne pas confondre, hein, l'énergie c'est tout ce qui est puissance, l'électricité c'est des électrons qui passent.
Dans un condensateur, on a Q égale Cu, c'est une capacité en farad,
ouais.
Une attention additive.
Ouais. Mais ça, c'est parce que ça a été déterminé par M. Faraday quand il a déterminé...
Par Faraday, justement, oui.
Par Faraday.
Oui.
Quand il a mis en valeur son condensateur.
Pour la histoire, on voit que c'est un mécanicien en fait,
c'est beaucoup plus. Oui, parce que c'était pour... on avait besoin de montrer qu'on avait bien aimé ses travaux, et donc, on a utilisé... On a utilisé son nom, mais Monsieur Watt, c'est pour ça qu'il n'a pas de loi. Hein. C'est la loi de Joule. C'est Monsieur Joule qui a tout travaillé sur les puissances, et non pas Monsieur Watt. La résistivité, et on va s'arrêter là pour ce soir. Résistivité, c'est quoi? Eh bien, c'est en fait ce qui caractérise qu'un conducteur laisse passer plus ou moins le courant. La résistivité, c'est le pouvoir qu'un conducteur à laisser ou ne pas laisser passer le courant. En règle générale, quand on parle de résistivité, on essaye que le meilleur possible. Donc c'est un petit peu idiot de parler de résistivité, on aurait dû parler de conductivité. C'est l'inverse. Hein? En règle générale, quand on cherche un fil électrique pour faire passer du courant, on essaye qu'il soit le moins résistant possible. D'ailleurs, on va parler un peu après, j'en ai parlé un peu à la suite, de cette fameuse conductivité. Il existe. Ah. Alors, en fait, c'est tellement évident que ça va sembler trop simple même. Alors, j'efface ma loi d'Ohm. Ne vous inquiétez pas, on va revenir dessus au grand galop. La semaine prochaine, on revient dessus et on ne fait que ça. Résistivité, c'est quoi? C'est ma résistance. Donc ma résistance, toujours en ohm, c'est égal à la résistivité, alors c'est cette lettre à la noix, qui est le ρ, donc c'est la lettre R en grec, qui se dit ρ. Multiplié par la longueur. Un fil, plus il est long, plus il est résistant. C'est bête, mais enfin bon. Plus vous mettez de fil, plus vous mettez de longueur de fil, plus ça va résister. Inversement, plus vous prenez un fil qui est gros, un gros diamètre, moins il résiste.
D'ailleurs, ça dépasse plus facilement. Vous avez la double américaine, ça va de 1 à 44. Ça veut dire en dixième à, je crois, 8 mm, et vous donne la résistance en ohms par kilomètre. Alors, elle est très grosse pour le fil très fin, et très faible pour le diamètre.
Ouais.
Alors, ça dépend pour vous, d'ailleurs.
Ça, tout dépend, oui. Alors,
Et là, j'ai fait le fil en ligne, là-bas. Pour que vous la matière d'emploi.
Donc là, ma résistivité. Alors, en règle générale, les conducteurs. Alors non, de l'ohm par mètre. Enfin, c'est pas de l'ohm par mètre, c'est de l'ohm mètre. Ohm multiplié par mètre. Hein, exactement. Donc, ou alors ohm mètre carré divisé par mètre. Bon. Donc tout ça, alors quand on va chercher des valeurs de résistivité, la longueur va être en mètres et la section va être en mètres carrés. Attention, c'est du mètre carré. Et quand on parle de section, j'ai bien dit section et pas diamètre. Section et diamètre, c'est pas pareil. Hein. Oui. Pas confondre. Oui. La section, c'est toujours en mètres carrés.
Donc ça vaut en section au lieu de section et diamètre, pas confondre.
Oui, oui, non, mais d'accord. Mais encore faut-il que le fil soit rond. Parce que vous pouvez avoir aussi des fils qui ne sont pas ronds. Hein. Il y a du fil carré, ça existe. Bon, c'est pas très... Je suis bien d'accord, mais carré, ben... J'ai jamais vu de question à l'examen aussi. Les questions, c'est du style, on a un fil qui fait 4 ohms et qui fait 20 mètres. On le rallonge, il fait 30 mètres. Quel va être sa résistance? T'as un fil qui fait 20 mètres, qui fait 4 ohms. C'est le même fil, tu rajoutes 10 mètres et on va dire, ouais, tu fais ta règle de 3. Ou inversement, il fait tant de sections, et puis voilà. Donc il n'y a pas de question sur la résistivité proprement dite. Ah. Heureusement. Non. Ah ben, on peut l'avoir appliqué, mais on n'a pas à le connaître pour l'examen.
Oui.
C'est pour ça que je l'ai mis en italique. Ce n'est pas à connaître. Alors, j'ai commencé par les... Alors, j'ai mis tous les matériaux, c'est-à-dire des matériaux des conducteurs et des isolants. Parce qu'évidemment, quand un matériau n'est pas conducteur, ben, c'est qu'il est isolant. Hein? Et quand il est alors on appelle conducteur, alors la définition physique, un conducteur, c'est quelque chose qui a une résistance inférieure à 0,01 ohm mètre. Ça c'est la définition. Alors on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de choses qui arrivent jusque là, et en particulier on s'arrête au fer, après on passe à ce que l'on appelle des semi-conducteurs. Donc c'est, ils ne sont pas encore isolants. Isolant, c'est quelque chose qui a une résistance élevée, c'est-à-dire au-delà de 1 million d'ohm-mètres. 1 million d'ohm-mètres, c'est comment ça... Qu'est-ce qu'on a? L'air sec. Isolant. 10 puissance 9. Donc on a 1 milliard d'ohms. 1 milliard d'ohm-mètres. Air sec. Air humide, c'est moins. L'air humide est beaucoup moins isolant. Et alors de l'air salin, alors là, c'est une catastrophe. quand on regarde l'eau de mer, c'est très, très faiblement résistant. L'eau de mer est un bon conducteur. Alors que l'eau distillée, enfin, ou déminéralisée, elle est isolante. Ah mais ça c'est autre chose ça. Ça c'est autre chose ça. Attends, ça c'est une réaction chimique. Hein. Ça c'est une réaction chimique. Hein. Parce que sinon si tu mets pas d'eau déminéralisée, t'as de calcaire qui est dans l'eau, qui s'évapore. Enfin qui s'évapore, le calcaire se dépose au fond. Et comme le calcaire, quelque part, il est un petit peu... Il va faire le pont entre les deux électrodes. Et que ta batterie, elle va dégager, elle va se vider tout de suite. Mais ça, c'est un problème chimique, ça.
Même dans le terrain repassé, vous l'utilisez de l'eau, c'est tout. Je ne me rappelle pas exactement quel est le mouvement que j'ai fait.
Ouais.
Mais dans un temps, le courant, il n'a pas fait ça. Je le mets dans un peu d'acide, parce que souvent, ça...
Ah ben oui. Bah ça marche. Et tu mets du sel, tu mets seulement du sel dans de l'eau, ça marche. Hein. Rien que le mettre du sel, c'est bon. Ou du citron, n'importe quoi, enfin un truc. Ouais, ça trouve, même avec du vin, ça doit marcher. Hein. De l'alcool. Entre mes conducteurs et mes isolants, il y a les semi-conducteurs. Des choses qui sont très isolantes, le polystyrène, c'est un des meilleurs isolants. Polystyrène dur, imprimé, parce que c'est très isolant. Qu'est-ce qui est intéressant? Oui, alors donc l'inverse de la résistivité, c'est la conductivité. C'est 1 divisé par, c'est l'inverse. Alors ça se mesure en siemens. Voilà. C'est ce qu'on va savoir. C'est l'inverse de l'ohm.
quand on a RL qui est en parallèle,
oui, en plus ça dépend de la fréquence, donc à ce moment-là, c'est plus de la conductivité. C'est... Donc la densité fil que l'on utilise ne supporte pas plus d'une certaine intensité par millimètre carré. Sinon, ça marche pas.
Tel fil qui porte 32 ampères,
voilà.
Ah,
plus le fil est gros, plus le fil est gros, plus il supporte. C'est logique, hein. Et ça dépend aussi un peu de la longueur. Oui, non, mais c'est pas la densité dans ce cas-là. C'est un problème de résistance. Alors, il génère un effet de peau,
ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le courant ne circule qu'à la surface.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que plus la fréquence au grand, plus la peau diminue.
Fréquence au grand, qu'à la fin, quand on met le courant, circule, vraiment, comme ça, c'est typiquement
Si on a un gros fil comme ça, le courant va passer sur toute la surface. Mais ce fil-là, je peux le remplacer par un fil composé de...
Le courant va passer à la surface de chaque
fil. Si bien qu'on
a des petits fils, on va en fait augmenter le passage du courant. Mécaniquement,
dans une antenne d'émission
autant une antenne d'émission.
Autant une antenne d'émission.
Vendredi.